Samia. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVR. Isidore n'arrive pas à trouver le sommeil. Il se tourne et se retourne sur sa paillasse. Il voit de la fenêtre le ciel étoilé, soupire et se lève. Prend sur une table blanche une figue et la mange, puis sort de sa chambre. Derrière la porte, un garde, habillé à la grecque, debout, plaqué contre le mur. Le roi a décidé d'aller dans son jardin pour se détendre et trouver le sommeil. Le jardin est rocailleux et longe le rivage. En sortant, il est surpris par la douceur de l'air et de ses senteurs. Il suit un petit chemin qui le mène vers la berge et là, il s'assoit sur un rocher. Elzidor II, roi de l'île de Sidir, est grand, mince, porte une abondante chevelure et barbe noire et frisée. Ses yeux sont marrons, son teint est pâle. Il a 35 ans, est habillé d'une toge beige. Sur la mer Égée, éclairée par des torches, des navires et des barques frontalières qui protègent le pays des envahisseurs. Toutes ces lumières sur la mer font penser à une fête nautique. Une petite bise fraîche s'est levée et fait du bien au roi. Tout à coup, des trompettes. Canon. Le roi se lève et voit les navires aller et venir. La garde royale envahit le jardin. Une officier de marine s'approche du roi, grand, fort, abondante chevelure et barbe, habillé lui aussi à la grecque, comme tous les militaires.
« Roi, un étranger est entré dans nos eaux. »
« Sur une barque. Qui est-il? Que veut-il ? »
« Il demande l'asile. »
« Amenez-le-moi dans la salle du conseil. »
« Cela ne vaut peut-être pas la peine. » « Ne me semble pas d'un homme aligné. »
« J'ai envie de le voir, de savoir qui il est. Cette nuit, j'ai fait un rêve étrange. C'est une colombe qui se transformait en vautour. Ceci est sûrement un mauvais présage. Je veux voir l'étranger pour savoir si c'est lui le mauvais présage. » Dans le palais, dans la salle du conseil. Les domestiques éclairent les torches. La pièce est grande. Il y a de la mosaïque à terre et sur les murs. Au milieu de la pièce, un trône. Il attend debout. Un quart d'heure plus tard, quatre soldats lui amènent un jeune homme. Il a les cheveux longs, bruns, visage pâle et crispé, taille moyenne, mince, habillé en haillons. On l'a attaché avec des chaînes aux pieds et aux bras. Le roi s'approche de lui. Il voit avec surprise que la chemise blanche trouée du prisonnier montre à nu un sein de femme. « Mais tu es une femme !»« Qui te dit le contraire ?»« Alors pourquoi ces vêtements ?»« C'est plus facile pour naviguer. »« Qui es-tu et d'où viens-tu ?»«
Je m'appelle Zamilia. Je viens de Phrygie. »« Mon pays était dévasté, brûlé. » alors que je me suis enfui sur une barque et pris la mer pour demander asile au premier pays que je verrai. Es-tu de bonne lignée? Je vous mentirais si je vous disais oui. Non, mon père est forgeron et moi j'étais ma mère.
Où sont tes parents?
Ils sont morts.
La franchise de la jeune fille, son visage et son corps plaisent au roi. Il se dit... Elle doit avoir à peine 16 ans.
Qui t'a appris notre langue?
C'est notre deuxième langue. Votre langue est la langue des marins et des marchands. C'est pour cela que nous l'avons apprise.
Tu demandes asile à mon pays. Que feras-tu si tu l'as?
Je ne sais. Je chercherai du travail.
Que sais-tu faire?
Je sais un peu broder, cuisiner, chanter et même pêcher.
Bien. Je t'offre l'asile. Tu me serviras.
Garde, déchaînez-la et emmenez-la chez le maître du palais pour qu'il lui trouve un emploi.
Merci, Seigneur.
Le garde la déchaîne.
Puis l'amène hors de la pièce.
Le lendemain matin, le roi demande au maître du palais ce que fait Zamilia. Le maître du palais est un homme grand, maigre et chauve. Il porte une toge bleue.
Il ne fait pas grand-chose, et lorsqu'elle fait quelque chose, c'est sale.
pour nettoyer, elle jette des pleines jarres d'eau et ensuite elle balaye la saleté. Non, t'es une véritable souillon.
Dis à tes femmes de lui apprendre. Le temps passe. Le maître du palais s'aperçoit, c'est que le roi a un faible pour la jeune étrangère. Chaque fois qu'il la voit, il ne peut s'empêcher de la regarder. Il se dit,
« Le roi est trop timide, il n'osa jamais faire le premier pas
et lui demander ses faveurs.
Je suis sûr que si quelqu'un allait réaliser son rêve, sa fortune sera faite. »
Il va voir Zamilia. Elle nettoie le sol du couloir. Elle est à terre, une serpillière à la main, à frotter le sol. Il s'approche d'elle.
Lève-toi. Tu n'es pas faite pour ce genre de travail. J'ai autre chose à te proposer.
Elle se lève. Et le regarde intriguée et malicieuse.
Écoute, j'ai bien observé le roi, il est amoureux de toi. Ne proteste pas, c'est la vérité. Mais le roi est timide comme une jeune fille. J'ai décidé de l'aider, je te mets dans son lit.
Je ne suis pas une putain.
Laisse-moi finir. Tu vas dans son lit et tu fais ta fortune et la mienne. Le roi est très généreux avec ceux qu'il aime. Es-tu d'accord?
Elle sourit. Aux ses épaules et dit « De toute façon, au point où j'en suis !» Elle lui monte la serpillière et la laisse tomber à terre. Il lui dit
« N'oublie pas que moi aussi je dois recevoir les largesses du roi. Si tu oublies !»
Il se penche et lui tend la serpillière.
« Tu en useras jusqu'à la fin de tes jours. » Nous sommes d'accord.
Oui.
Viens.
Il l'amène dans ses appartements. Lui fait prendre un bain. Maquiller et mettre une chemise brodée. Le roi, après avoir congédié ses conseillers, va dans ses appartements privés. Prennent un salon, une chambre et un petit bureau. Entre dans le salon qui mène à la chambre. Ouvre la porte de la chambre. Elle est dans l'obscurité. Il se déshabille. Et met une chemise blanche brodée d'or. Et se dirige vers le lit. Là, il voit, grosse aux rayons de la lune, une forme dans son lit. Intrigué, il va chercher une torche au salon. Et s'avance vers le lit. Il voit dans le lit, endormi, presque nu, Zamilia. Il tire les draps.
Que faites-vous ici ?
Elle s'éveille, s'étire doucement et avec un grand sourire. L'homme a dit, Seigneur, que vous m'aimiez, mais que vous étiez très timide. Et comme moi, je vous aime bien aussi, alors ? Le roi la regarde abasourdi. On ne lui a jamais parlé de cette façon. Pendant quelques secondes, elle a un peu peur. puis se dit qu'il ne faut surtout pas montrer qu'elle a peur. Elle hausse ses épaules, lui sourit et lui dit « Pourquoi un roi se refuserait-il cette joie d'être avec l'être cher ? Le plus humble de ses sujets ne se refuserait pas ce plaisir. Je viens à vous, je fais le premier pas, si vous voulez, je m'en vais. » Elle fait le geste de sortir du lit. Il voit ses seins qui sont presque entièrement dénudés. Il se penche vers elle, lui met la main à l'épaule. Elle se recouche et lui sourit. « Venez !» Il se penche encore. Il la sent palpitante et douce. Elle n'était pas vierge, il en est attristé. Qui était le premier ? J'ai été violé par un soldat. Les jours passent, elle va le rejoindre chaque nuit et n'est plus domestique. Leur liaison ne s'est pas ébruitée. Un jour, il lui offre la villa d'une de ses tantes. Il la choisit parce qu'elle est un peu en dehors de la ville. Mais c'est elle qui doit aller le rejoindre la nuit pour éviter les ragots, car un roi peut circuler que difficilement. Le maître du palais est impatient. Il n'a pas revu la jeune fille et ne sait pas où elle habite. Il décide de surveiller la chambre royale. Tard dans la nuit, il la voit arriver dans le couloir qui mène dans la chambre. Il s'avance vers elle.
Tu vas rejoindre ton royal amant. J'espère que tu n'oublies pas notre accord.
Je suis maintenant la maîtresse du roi. Je te prie de me laisser passer. Il lui prend les bras et lui serre.
Ne le prends pas sur ce ton, ma petite.
Lâchez-moi ou j'appelle mon royal amant. Il la lâche.
Nous reverrons. Tu n'es qu'une étrangère ici.
Elle le regarde droit dans les yeux et lui dit. Peut-être une étrangère, mais qui est capable de te mettre au fer. Il la lâche et part. Après une nuit de réflexion, le maître du palais décide d'aller voir le neveu du roi, le prince Alvar, qui, comme tous les jeunes, est plein de fougue. Alvar a ses appartements privés dans le palais. C'est un jeune homme de 22 ans, grand, mince, brun, avec beaucoup de grâce, est habillé d'une toge rouge. Il est orphelin et c'est Alzidore qui lui sert de père. Comme le roi n'a pas d'enfant, c'est lui qui devrait lui succéder. Et il est impatient d'avoir le pouvoir. Lorsque le maître du palais vient le voir, il est en train de prendre son petit déjeuner, fait de fruits et de vin. Le maître du palais s'avance vers lui. Il lui fait une révérence. « Alors, qu'as-tu à me dire ?»
C'est assez délicat, car ceci concerne le roi. Je tenais à vous en parler parce que c'est assez grave.
N'hésite pas, parle-moi. Le roi est mon oncle. Cherche-t-il à me déshériter?
Non. Enfin, je ne crois pas.
Alors?
Eh bien voilà, le roi a une maîtresse.
Le prince sourit. Et alors? Il est libre. Ce n'est pas grave.
Oui, mais lui, il lui est très attaché.
Ah! Il hausse les épaules et ajoute. Qui puis-je? Veut-il l'épouser?
Ah, ça! Et s'il le fait, ceci voudrait dire qu'il risquerait d'avoir une descendance.
Le prince se pince les lèvres.
Il y a une chose qui aggrave tout, c'est que c'est une étrangère.
Alvar se lève. Quoi?
Oui, nous avons recueilli il y a 2 mois dans une barque dans nos eaux territoriales, et dedans il y avait cette fille.
Mais vous n'aviez pas le droit de la faire accoster dans l'île.
C'est le roi.
Alvar fait les 100 pas. Le roi a une maîtresse avec qui il risque de se marier. Mais elle est étrangère. C'est simple. Il faut prévenir la cour et le peuple que le roi a une étrangère dans son lit. Pour une faute comme celle-là, le roi risque d'abdiquer. Le peuple le fera abdiquer. Fait courir la nouvelle dans tout le royaume que le roi a une maîtresse étrangère dans son lit. Le peuple, les courtisans s'en émeut. Durant le grand conseil, les notables lui demandent si c'est vrai. Parce que je suis roi et homme d'honneur, je ne mentirai pas. Oui, j'ai une étrangère dans ma vie privée. Je l'aime et elle m'aime. Nous ne faisons rien de mal. Un notable se lève. Il est grand, maigre, à cheveux et barbe blanche.
Oui, sire, vous faites mal. Car il est interdit aux étrangers de vivre dans notre royaume. Je suis le roi. Le roi, plus que tout autre, doit suivre les lois. Vous faut quitter cette femme, sire.
Je n'en ferai rien.
En tant que le plus ancien des notables.
Le roi lui tourne le dos et se dirige vers la sortie. L'on crie. Voix se met à crier. Il faut remplacer le roi par Alvar. La journée, des émeutes se produisent dans le pays, mais sans conséquence. Thank you.
qui est le deuxième pouvoir dans le pays, le grand prêtre Iléas, chef religieux de la déesse Isa, fondatrice de l'île, déesse mère et toute puissante, dont son temple se trouve en face du palais, tout aussi respectée que le roi, elle est la gardienne des lois et des traditions. Aucun décret ne peut être fait sans son accord. Prince Alvar le sait et c'est pour cela qu'il est allé voir le grand prêtre. Le grand prêtre l'a reçu dans ses appartements privés de marbre et d'or. Il le reçoit dans la salle du conseil. Ils sont tous deux debout dans cette grande pièce vide. Le prêtre est grand et mince. Il porte une barbe et des cheveux blancs. Il est habillé d'une toge blanche et or.
Je te remercie de m'avoir appris tout ceci. Avant de prendre décision, je vais voir le roi. Après, je parlerai au peuple. Ceci est grave. Tu es le descendant, reste sur tes gardes.
Prêtre va voir le roi qui le reçoit dans la chambre du conseil. Ils sont tous deux debout.
As-tu une étrangère comme maîtresse?
Oui.
Tu ne dois pas la garder.
Mais je l'aime.
Les étrangères sont interdites dans le pays.
Elle est la seule et bien inoffensive. Ceux qui protestent contre elle sont bien plus dangereux. Et puis, si je me marie avec elle, elle ne risquera pas de nous nuire. Je vous promets, prêtre, que si elle fait quoi que ce soit pour nous nuire au pays, je la chasserai.
Je vois que tu es bien pris, amoureux, mon petit. Je vais dire au peuple et aux gens de la cour que tu dois rester le roi et que nul ne doit te désobéir. Que la rébellion est interdite. Et que je te fais confiance parce que je te connais depuis toujours. Mais fais attention, un roi qui enfreint les lois de son pays n'est plus digne d'être roi.
Prêtre dit au peuple et à la cour qu'il fait confiance au roi et qu'eux doivent en faire autant. Alvar est furieux et dit que le prêtre est complice avec le roi pour donner le pays aux étrangers. Le peuple est divisé, et beaucoup pensent comme Alvar, mais ne pensent pas que le grand prêtre soit complice, car le prêtre est un homme populaire dans le pays. C'est un homme sage et plein de bonté. Voit que le peuple continue à gronder et se demande s'il ne doit pas abdiquer pour vivre avec sa maîtresse dans un autre pays. Un soir qu'il est au lit, il lui fait part de ses peines et pense abdiquer. Elle le regarde furieuse. Tu ne dois pas abdiquer, mais te battre, tu es le roi. Réfléchissons un peu et trouve un moyen pour faire taire ces gens. Il n'y en a aucun, malheureusement. Il y a toujours une solution. Elle se soulève. Se penche contre lui. Il est allongé et il sent ses seins contre lui. Ses yeux brillent comme des diamants. Ce qu'il faut, c'est prouver au peuple que ton neveu veut prendre le pouvoir
et choisir n'importe quel prétexte pour créer des troubles, qu'il est même capable du pire pour arriver à ses fins. Mais comment prouver tout cela puisque c'est moi qui suis en tort? C'est très simple. Il faut que ton neveu fasse la chose la plus horrible qui soit et se mette à dos tout le pays. Mais lui faire quoi? Elle sourit. Pas lui faire, mais faire à son nom. Il parlit. J'ai bien étudié ton peuple. Il y a deux êtres qu'il vénère. C'est toi et le grand prêtre qui est très populaire par ses largesses et bontés. Toi, tu peux devenir impopulaire et l'on peut te chasser. Lui, il est intouchable. Il représente la religion et les fondements même du pays. La personne qui le touche est perdue à jamais. Tu comprends? Je sais tout ça. Ce qu'il faut. Elle se pince les lèvres. C'est Calvar, tu, Iléas. Tu es folle? Non, car en faisant cet acte, il se met à dos tout le monde. Le roi se lève et marche. Elle voit qu'il faut continuer. Tu tues le prêtre. Personne ne pensera que c'est toi qui l'as tué. Dans sa dernière allocution, il a parlé en ta faveur et contre les insurgés. Le peuple pensera qu'Alvar l'a tué parce qu'il s'était mis de ton côté. Le roi s'arrête de marcher. Tu es une véritable sorcière. Il n'y a que les démons qui sont capables d'avoir de telles idées. Me demander de tuer le prêtre, l'âme de notre pays et mon ami. Démon, sors de ma couche, dit-il en tendant le bras. Elle sort du lit. Te met à ses pieds, les lui baise. Elzidore, je t'aime. C'est pour toi que je fais cela. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne suis pas un démon, dit-elle les larmes aux yeux. Je partirai si tu le désires. Je suis comme ton humble servante. Lui vacille. Il ne sait que faire. Tu es son vieil ami, détenteur de l'âme du pays, ou chasser celle qu'il aime. Je ne veux pas tuer le grand prêtre. Elle se lève. Elle lui dit, « Bon, c'est moi qui m'en vais. » Elle fait un pas. Il la retient par le bras. « Non, reste, je ne peux pas me passer de toi. » Elle se dégage. « Tu sais ce qu'il faut faire. » « Non, je ne veux pas. » Tout à coup, il a une illumination. « Va-t'en, tu es le démon. » Elle quitte la pièce. Lui se rue sur son lit en pleurs. Le lendemain, après une nuit d'angoisse, il la fait rechercher. Ils sont debout au milieu de la pièce. Tu m'as dit de venir, je viens. As-tu changé d'avis? Je t'aime. Tu m'as appris l'amour, je veux me passer de toi. Elle s'approche de lui. Moi aussi je t'aime, mais il faut que tu comprennes. C'est que si tu n'agis pas le premier, ce sera les autres qui te frapperont. Il s'agit de savoir si tu m'aimes plus que ton prêtre. Il lui prend les mains. Bien sûr que je t'aime plus que le prêtre, mais de là à le tuer. C'est un brave homme. Puis si le peuple apprend que c'est moi qui l'ai tué, ce sera notre perte. Un roi, on le remplace, mais un prêtre, c'est plus compliqué. J'ai déjà enfreint les lois en faisant vivre une étrangère dans le royaume. Les gens qui crient contre nous se calmeront. Alvar est mon neveu. N'osera jamais aller trop loin contre moi. C'est ce que tu crois. Les bruits courent déjà dans la ville que tu devrais indiquer. Elle tourne autour de lui. Puis, tout en le regardant langoureusement, elle se couche. Alors, que faisons-nous ? Il s'approche d'elle. Se penche. Elle entoure sa nuque de ses mains. Viens, je t'aime. Viens. Continue à émeuter le peuple contre le roi. Il a fait venir une étrangère. Il en a fait sa maîtresse. Ce sera elle qui gouvernera. Et le grand prêtre ne dit rien. C'est une honte. Allez ! Servante a répété le discours à Zamilla. Elle se dit, il a fait une grande faute, c'est le moment d'agir. Une heure plus tard, elle accourt dans la chambre du roi. Elle se préparait à aller se coucher et se déshabiller. Le roi la voit défaite, les vêtements déchirés, la figure griffée, il accourt vers elle. Il la prend dans ses bras et tout essoufflé. Que t'arrive-t-il ?
Les émeutiers sont entrés dans ma chambre. Ils l'ont pillé. Ils voulaient me prendre pour me mener au supplice. Protège-moi, je t'en supplie. Protège-moi. Il veut me mener au supplice. Je t'en supplie. Il vous fait agir. Si tu voyais le ravage de notre maison.
Mais comment agir ?
Tu le prêtes ou c'est moi que l'on tuera ?
Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Zamilla, dont c'était la première partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP.